Bellu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 16 janvier 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, on commence par une actualité de haute importance de la part de GM qui a dévoilé un paquet de trucs électriques, mais ça, c'est de l'information secondaire, parce qu'on veut surtout mettre l'emphase sur la nouvelle emblème du constructeur.
Oui, bien en fait, General Motors a changé son logo, son image de marque, qui était la même, soulignons-le, depuis 1964. Donc, de dépoussiérer ce vieux logo carré-là bleu pour le rajeunir par un nouveau logo carré bleu, c'est une excellente...
Avec des lettres minuscules au lieu de majuscules.
Avec des lettres minuscules, avec un bleu plus électrique, parce que visiblement, c'est la nouvelle tendance. Donc, nouvelle image de marque qui a fait réagir énormément sur Internet et pas nécessairement pour le mieux. Donc, certains appréciaient le logo traditionnel. Et je demandais si c'était vraiment pertinent de refaire ça et qu'est-ce que ça apportait. Pas grand-chose.
Il y en a qui ont donné de la job à du monde.
Oui, et il y en a qui l'ont reviré de tous les bords, de tous les côtés pour essayer d'y voir certains signes. Parce que si on le tasse de 90 degrés, ben on voit un E. Le E pour électrique. Tout est possible.
Bon, un petit mot aussi pour mentionner que GM a dévoilé un fourgon électrique au CES, a dévoilé volant de la Bolt.
Oui, au CES virtuel.
Ouais, c'est ça.
Donc, une panoplie là, de dévoilement. Le fourgon, oui, c'est intéressant parce que c'est un énorme marché en Amérique du Nord, la livraison.
Et ça va rivaliser avec le e-transit de Ford. Là.
Oui, effectivement, mais c'est des images d'un véhicule là, construit à l'ordinateur. On n'a rien
vu. Ça semble quand même plus moderne qu'une Savannah.
Ben, c'est difficile de faire pire, on est d'accord, mais c'est vraiment un fourgon de livraison là, avec un step van, là, comme on dit, là, donc une coche de plus que le Savannah, et on nous dit là, 400 km d'autonomie, blablabla, donc c'est... C'est, mais j'ai l'impression que c'est pas demain qu'on va les voir.
On sent que t'es excité.
Non, absolument pas. Okay. Absolument pas.
Bon, un point qui est quand même intéressant, et là, écoute, on voyait des gens qui sont fanatiques de constructeurs américains, allemands, se taper dans les mains
hier. Oh, oui.
Parce que Toyota a prouvé qu'il n'était pas parfait. Ont reçu une amende, en fait, salée de la part du gouvernement américain pour une question d'émissions polluantes.
Oui, donc Toyota a accepté cette semaine de payer 180 millions de dollars aux États-Unis pour ne pas avoir respecté les règles sur la façon dont les groupes automobiles doivent rapporter aux autorités les problèmes liés aux émissions polluantes. Donc, c'est carrément une pénalité qui est accordée à ce constructeur-là. Et effectivement, là, on parlait du logo GM qui a fait jaser sur Internet, mais là, effectivement, ça aussi, les fanatiques des autres marques se sont payés la tête bien comme il faut de Toyota parce que Toyota produit des véhicules qui plaisent à beaucoup de gens et qui ont une réputation de fiabilité qui est difficile à accoter.
Mais Toyota qui se dit une entreprise verte avec des véhicules indestructibles, ben là, on a prouvé qu'il y avait quand même une petite...
On n'était pas parfait, là.
C'est ça, une petite maille dans la chaîne.
On n'était pas parfait, voilà. Donc, 180 millions de dollars, c'est un peu plus que si tu roules 121 sur l'autoroute.
Oui, voilà. Montréal qui a perdu près de 40 000 de population cette année se voit quand même dans un rang mondial des villes les plus congestionnées en 2020 au 195e rang. Et s'il y a de la congestion à Montréal, c'est pas parce qu'il y avait trop de monde cette année. Je pense que c'est parce qu'il y avait bien des cônes.
Oui, exactement. Donc les travaux, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la circulation à Montréal. Et là, on le voit ces jours-ci. La plupart des chantiers là, sont à arrêté. Donc, et il n'y en a pas de trafic, là. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Mais effectivement, c'est le fabricant des systèmes de navigation TomTom qui a accès visiblement à des données sur la circulation automobile, tu l'auras deviné, et a recensé là 416 villes et les a classées selon leur taux de congestion. Et Montréal, hein, c'est ça, 195e. Donc, si on regarde les autres villes Amérique du Nord, ben Mexico est 29e. Donc, si on pense qu'il y a du trafic à Montréal, allez faire un tour à Mexico. Allez-y pas cette semaine, c'est pas très bien vu d'aller dans le sud. Ouais. Mais sinon, Vancouver est 52e. Los Angeles, hein, que j'aurais cru bien plus haut dans le palmarès, est au 85e rang. New York, 102e rang. Donc, voilà. Et une autre ville canadienne, Toronto, au 168e rang.
Et donc, la ville numéro 1 est...
La ville numéro 1, c'est Mumbai.
Mumbai,
ouais.
OK.
Donc, les pires, là, on a Mumbai, Bogota, Manille et Istanbul.
Oui, bon, alors...
En fait, le numéro 1, c'est Moscou et les quatre que je viens de te nommer sont les quatre suivantes. Donc, voilà.
Germain, on y reviendra un peu plus tard, mais aujourd'hui, ça serait le début du Salon d'auto de Montréal. Et d'ordinaire, on participait aussi en début d'année au Salon de l'auto de Détroit, qui avait été reporté l'année passée de janvier à juin.
C'était une stratégie que les organisateurs avaient lancée pour essayer de donner un souffle, là, tu sais, donc de dépoussiérer peut-être ce salon-là, de le décaler dans l'année en se disant ben, peut-être qu'on va avoir de plus grands dévoilements internationaux. Ouais. Non, bon, OK. Et ce qui est ironique, c'est que, bon, si on se replace l'année dernière, s'il avait eu lieu en janvier, comme il a toujours eu lieu, ben il aurait eu lieu, justement.
Oui,
alors là, il avait été reporté en juin. Donc, évidemment, il n'a pas eu lieu en raison de la pandémie.
Et cette année, ça devait être encore la même chose. Donc, juin 2021, c'était la date prévue pour le Salon de Détroit.
Et après ça, on nous a mentionné qu'il allait être décalé à l'automne. Évidemment, ça n'a pas eu lieu. Et là, cette semaine, on a carrément dit qu'il n'y aurait pas de Salon de l'auto de Détroit 2021. Donc, pas de plus tard à l'été, pas de l'automne prochain, rien du tout, rien.
Est-ce qu'on peut commencer à poser la question, va-t-il y avoir un retour pour le Salon de Détroit un jour? Parce que évidemment, on a l'impression, avec raison, que l'intérêt pour les salons automobiles, ça commence à battre de l'aile. Là.
Oui, visiblement. Puis les constructeurs se sont adaptés, ils n'ont pas eu le choix. Ils veulent dévoiler des nouveaux modèles, veulent présenter des améliorations sur d'autres. Donc, on n'attend pas les salons de l'auto pour ça. On fait ça en ligne et c'est ce qu'on a fait dans la dernière année, d'ailleurs. Donc, 2 ans sans le Salon de l'auto de Détroit, qui était déjà en période... qui était déjà en crise, qui était...
Mais ça sera aussi le cas pour New York. Ça sera aussi...
Ouais. Mais c'était peut-être des salons qui étaient dans une posture un peu plus enviable, mais oui...
Et Los Angeles, va falloir voir, parce que ce salon-là a lieu à l'automne. Alors, est-ce que pour 2021, ça pourrait avoir lieu?
Ouais.
Ça, c'est plus plausible que pour le Salon de New York qui aurait lieu quelque part au mois d'avril. Alors ça, on oublie ça tout de suite. Là.
Autre actualité d'importance, Antoine, t'as découvert une petite information qui n'a pas fait plaisir nécessairement à tout le monde cette semaine.
Non, en fait, ça a fait plaisir aux gens de Tesla.
Oui, à la moitié des gens,
bon,
c'est ça.
Et à tous les fanatiques de la marque Tesla, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Je reçois de la part de quelqu'un qui me suit sur mes réseaux sociaux, un communiqué qui a été envoyé au concessionnaire Ford à l'effet que la Ford Mustang Mach-E en version premium all-wheel drive ne serait plus éligible au crédit gouvernemental provincial de 8 000 $. Alors que c'est ce que Ford avait annoncé et c'est comme ça qu'on la commercialisait. Donc, c'est-à-dire que ce véhicule-là, étant une version premium à 4 roues motrices, on considérait que le 4 roues motrices était une option sur la version premium dont le prix d'entrée est à 58 550 $. Ça amenait le prix à 62 200 quelques $, mais malgré tout, parce que le rouage intégral était une option, on considérait que le véhicule était éligible. Mais voilà, coup de théâtre, la semaine passée, les concessionnaires Ford reçoivent un communiqué à l'effet que finalement, cette version-là ne serait plus éligible aux crédits gouvernementaux parce que son prix dépasse les 60 000 $ et qu'on ne peut pas considérer le rouage intégral comme une option, mais bien comme une version spécifique. Et moi, j'ai voulu fouiller un peu la chose parce que je ne pouvais pas concevoir que le fait qu'on ait dévoilé une Tesla modèle Y à deux roues motrices éligible aux crédits gouvernementaux le jour même où les concessionnaires Ford recevaient ce mémo-là, soit un pur hasard.
Tu sais, il y a des coïncidences là,
qui se peuvent pas. Non. Alors moi, j'ai téléphoné aux gens de Ford pour me faire confirmer la nouvelle, ce qu'ils m'ont confirmé. Ensuite, j'ai décidé de téléphoner au ministère des Énergies et des Ressources naturelles pour en savoir un peu plus. Et c'est à ce moment qu'on m'a donné une partie de la réponse, c'est-à-dire, eux m'ont dit, le véhicule n'a jamais été éligible aux crédits gouvernementaux. C'est une interprétation de la part des gens de Ford.
Donc, Ford avait pris les devants en le publicisant de cette manière-là, en prenant pour acquis que le système à quatre roues motrices était considéré comme une option aux yeux du gouvernement.
Sauf que, sur le site du gouvernement, au moment où la nouvelle sortait, on indiquait toujours que les versions Select et Premium, sans mention d'un rouage intégral ou pas, étaient éligibles. Ce que ça voulait dire, autrement dit, c'est que une version Premium ou une version Select, c'est éligible, point final.
Ouais.
Donc, je donne raison aux gens de Ford à ce niveau-là, parce que il n'y avait pas de mention, de nuance d'apporter de la part du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui, à mon sens, était peut-être fautif là-dedans, bien que c'est vrai qu'il y avait une zone grise. Il y a quelque chose qui n'était pas clair dans tout cet énoncé-là. Mais qui a amené cette information-là ou qui a fait réaliser aux gens du ministère qu'il y avait une faille dans le système? C'est clairement, selon moi, les gens de Tesla, même si ça, les gens du ministère ne me l'ont pas confirmé. Non. Quoi qu'ils m'ont confirmé que c'était un tiers qui leur avait amené l'information la semaine passée. Donc, 1+1, à un moment donné...
c'est assez clair. Là.
Alors là,
ça peut pas être personne d'autre. Personne d'autre n'avait d'intérêt, finalement, de lever le drapeau.
Ben non, voilà. Alors évidemment, ce que ça a comme impact, c'est que là, on a une Ford Mustang de 62 200 quelques dollars qui n'est plus éligible aux crédits gouvernementaux. Ford voudrait peut-être faire appel de cette décision-là ou du moins discuter avec les gens du ministère qui, eux, m'ont confirmé que cette décision-là était définitive et sans appel, parce qu'elle n'avait jamais été mise en place. Autrement dit, on ne renverse pas une décision, mais on ne fait qu'appliquer une règle qui était là depuis le début en apportant une précision qui n'avait pas été apportée au départ. Donc, qui va gagner le combat? J'ai hâte de voir, mais moi, j'ai l'impression que de la façon dont ça va se finir, c'est que Ford va abaisser le prix de sa version.
C'est ça, cette histoire-là n'est pas terminée. Là. Il va y avoir des réactions parce que, tu le mentionnais sur d'autres tribunes, Ford a commandé un paquet de Mach-E Premium 4 roues motrices. Là.
J'ai moi-même fait une vidéo il y a quelques semaines avec ce véhicule-là que j'ai partagé sur le site du Guide de l'auto, sur mes réseaux sociaux, où je mentionnais que c'est la version la plus intéressante de la gamme Mustang Mach-E.
Parce qu'elle a un équipement
Autonomie raisonnable, parce qu'elle est rouage intégral et parce que son prix, en considérant le crédit gouvernemental, devient... finalement, relativement alléchant par rapport aux autres versions. Ouais. Donc, c'est sûr que Ford avait considéré ça et la grande majorité des versions qui ont été commandées spécifiquement pour le marché du Québec, ce sont des versions premium all-wheel drive. Alors là, j'ai vu un autre mémo passer qui a été envoyé à des concessionnaires. Si vous avez récemment commandé des versions premium all-wheel drive, il est encore temps d'annuler vos commandes avant qu'on les mette en production. On est en mode réaction actuellement.
Je me mets à la place du consommateur qui achetait le véhicule en se disant qu'il allait avoir droit au rabais. C'est sûr qu'il va être déçu, là, et c'est certain que les concessionnaires vont devoir patiner pour essayer de redonner le sourire à ce client-là.
Bon, alors moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que Ford va prendre son prix de 62 245$. On va baisser le prix à 59 999$. On va peut-être grimper le taux de financement de 1% ou de 1,5% et on va finalement arriver à un résultat qui ressemble pas mal à celui qui était là au départ. Mais évidemment, ça fait pas l'affaire des gens de Ford et qui s'en lave les mains? Les gens de Tesla qui, eux, débarquent avec un modèle Y à 53 000$
et qui livrent à profusion déjà.
Oui, on n'a pas pas de délai de livraison, il y en a, il n'y a pas de problème. Alors moi,
et
j'ai
on en livre depuis 6 mois, alors que le Maquis, là, ça va arriver au printemps. Là,
quand j'ai partagé l'article que j'ai écrit sur mes réseaux sociaux...
Tu t'es fait lancer des roches.
Ben
là.
Oui, par les défenseurs de la marque Tesla qui disent toujours que j'en veux aux Teslistes de ce monde. Ben moi, je m'excuse, mais dans ce cas-ci, bravo à Tesla. Si moi, je m'appelais Tesla, j'aurais fait la même chose et ils ont gagné une manche par rapport à Ford. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Alors non, ce n'est pas une roche que je lance aux gens de Tesla. On appelle ça de la compétition et eux ont trouvé une faille et ils ont trouvé une façon de gagner un point par rapport à Ford. C'est une compétition, là. C'est pas compliqué, là. C'est de la concurrence et c'est comme ça que ça se passe. Donc, bravo aux gens de Tesla.
Tesla est peut-être plus sensible à les réalités particulières du Québec que Ford.
En fait, parce qu'ils sont concentrés sur ce marché-là que n'importe qui, alors que Ford, c'est une... Tu sais, Ford, on vend des F-150 et accessoirement, on vend d'autres choses. Là, on a compris que... Puis tu sais, même les gens de Ford le mentionnent. Pour eux, le marché du Québec pour le Maquis, c'est un marché qui demeure embryonnaire par rapport à l'échelle nord-américaine.
Tout est à bâtir, là. Parce que c'est pas avec des fusions hybrides puis des
voitures
électriques qu'on a développé un gros marché électrique.
Je pense par contre
que
chez Ford, on sous-estime le pouvoir du marché québécois pour les véhicules électriques. Ça va falloir s'ajuster à ce niveau-là.
On sous-estime toujours le Québec, là.
Chez Ford particulièrement. Oui. Parce que le marché du Québec, pour ce qui est, par exemple, de l'Escape, de l'Explorer, en proportion du reste du marché canadien et surtout des États-Unis, c'est pas ici qu'on vend le plus de véhicules de façon générale. Toujours exception faite du F-150 qui se vend très bien. Quoique, tu sais quoi? Même si cette année, le F-150 a été le véhicule le plus vendu au Canada...
Il a perdu des plumes?
Au Québec, c'est Chevrolet qui vendait plus de camionnettes que Ford.
Parce que probablement qu'il y avait plus d'inventaire, tout simplement.
Il y a eu une... Je t'avoue que le camion Chevrolet au Québec, on le voit beaucoup. Chevrolet et GMC, là, évidemment. Ouais. Là. Mais on a réussi à dépasser Ford au Québec.
Et il y a des concessionnaires qui en ont vraiment fait leur cheval de bataille et qui en livrent à la tonne.
Oui, mais toi puis moi, Chevrolet n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Donc, on s'est concentré là-dessus.
Bon. Est-ce que Ford a d'autres choses à vendre?
Un mot en terminant pour vous mentionner que on devait recevoir en entrevue cette semaine les gens du ministère des Énergies et des Ressources naturelles qui, à la dernière minute, ont refusé notre entrevue en nous disant qu'il y avait de nouvelles informations qui étaient arrivées à leurs oreilles et que cette entrevue-là serait reportée. Alors, est-ce qu'on pourra leur parler pas juste de la Mustang Mach-E, mais de tout
le programme de crédit gouvernemental pour des véhicules hybrides
verts, voilà. Alors, c'est un peu l'objectif de l'entrevue. Est-ce qu'on pourra leur parler la semaine prochaine?
On croise les doigts.
En attendant, après la pause, on va parler à André Gamelin de Pièces d'Auto Super qui va nous parler du domaine de la pièce automobile qui a été chamboulée.